Alors nous allons prendre un texte ensemble ce matin dans la première épître aux Corinthiens. Première épître aux Corinthiens, chapitre 9. Et nous allons lire ce texte à partir du verset 23. 1 Corinthiens 9. Versets 23 à 27. Je fais tout, dit Paul, je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous, nous le faisons pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, réprouvé, après avoir prêché aux autres. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que c'est ta parole, c'est pas la parole d'un homme. C'est certainement pas ma parole. Ce n'est pas simplement quelque chose qui est venu sur les lèvres ou de l'inspiration d'un cerveau humain, Seigneur. Mais c'est toi qui parles au travers de tes serviteurs, les apôtres. Tu les as inspirés. Et cet enseignement est l'enseignement de Christ lui-même. Et nous sommes devant toi aujourd'hui pour entendre parler de toi, parler de ta parole, Seigneur. Que ta parole parle ce matin. Et non pas ma bouche, Seigneur. Qu'elle nous dirige et qu'elle nous conduise à voir, à nous voir tels que nous sommes, à sentir ton regard sur nous, à nous examiner devant toi. Et aussi, Seigneur, à nous repentir partout où cela est nécessaire et à marcher dans les voies qui sont les voies de la sainteté, dans les voies de la relation harmonieuse, paisible et joyeuse avec toi, Seigneur. Nous aspirons à la paix au plus profond de notre cœur et nous voyons toutes ces luttes qui, toute cette semaine, au quotidien, dans toute notre vie, nous accablent et nous fatiguent, Seigneur. Nous sommes épuisés parfois sur le chemin. Nous avons besoin de ton réconfort aujourd'hui. Seigneur, apprends-nous à combattre, apprends-nous à marcher avec toi. Et dirige-nous dans le sentier par la lumière qu'est ta parole, Seigneur, afin que nous marchions dans tes voies et nous te suivions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a, chers amis, de grandes similitudes entre le mouvement évangélique francophone, par mouvement évangélique francophone, je vous inclus, bien sûr, même si vous êtes belge, vous parlez français, et il y a de grandes similitudes entre ce mouvement évangélique, ce que je connais de mon pays, ce qui se passe ici, et ce qu'il se passait au 1er siècle dans la ville de Corinthe. L'apôtre Paul avait fondé cette église, et si vous voulez voir le récit de la fondation de l'église de Corinthe, je vous invite à regarder chez vous dans Actes chapitre 18, et vous verrez que Paul a passé un certain temps dans cette ville, et Dieu avait un peuple nombreux dans cette ville. Et Paul a rencontré un certain nombre de problèmes, des problèmes qui ont perduré après son départ, et qui l'ont poussé à écrire cette lettre après la réception d'un rapport. C'est ce que nous informe le chapitre 1, rapport des gens de Chloé, et en même temps il avait reçu une lettre des Corinthiens avec des questions. Il y avait des problèmes à Corinthe, c'était pas une église parfaite. Il y avait de même de très gros problèmes, des situations de débauche généralisées, au point même qu'un homme avait pris la femme de son père. Incroyable, des situations qu'on ne croirait ne pas connaître. En même temps, il y avait des divisions qui étaient généralisées, chacun se réclamait d'un chef spirituel différent, les uns proclamaient leur autorité, les autres l'affirmaient en même temps, vous voyez, certains la rejetaient. Il y avait des procès entre chrétiens, il y avait des éclats dans les assemblées. Lorsqu'il y avait des assemblées, des rassemblements du culte, les gens se disputaient entre eux, et puisqu'ils ne parvenaient pas à trouver un accord, ils se mettaient à exposer leurs différends devant les gens du monde. Ils allaient se faire des procès les uns aux autres. Et l'apôtre Paul leur dit, mais c'est incroyable, est-ce que c'est une attitude digne de l'évangile? Vous voulez arrêter de vous disputer? Laissez-vous dépouiller. Pourquoi ne vous laissez-vous pas dépouiller? Dit l'apôtre Paul. Et puis il en vient aux réponses aux questions des Corinthiens à partir du chapitre 7. Et au chapitre 8, il répond à une question très précise des Corinthiens sur la question des viandes sacrifiées aux idoles. Et il semble que la question des Corinthiens concernait une pratique de certains membres d'aller visiter des temples à idoles et de manger la nourriture sacrifiée aux idoles tout en proclamant qu'ils étaient chrétiens. Et il pose la question à Paul, mais est-ce que c'est possible de faire ça? Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce qu'on est libre de faire ça? Et plutôt que de leur donner une réponse très simple et basique à leur question, l'apôtre Paul va abaisser le niveau de la mer et va aller regarder la partie immergée de l'iceberg. Qu'est-ce qu'il y avait derrière leur question? Quel était le problème doctrinal? Et l'apôtre Paul va aborder la question de la liberté chrétienne. Chapitre 8, à la fin du chapitre 10. Et dans le passage que nous venons de lire, après avoir montré que la liberté chrétienne est au service de la vie spirituelle de mes frères et sœurs, ma liberté chrétienne est transcendée par le service que je vous dois. Après avoir montré que ma liberté chrétienne est consacrée à la prédication de l'Évangile, je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. Oui, je suis libre, mais je fais tout à cause de l'Évangile. Je ne vais pas faire des choses qui iraient contre l'Évangile. Et bien maintenant, il nous montre que la sanctification, notre expérience de marche avec Dieu, notre expérience de marche chrétienne, a préséance, transcende notre liberté. Il faut comprendre que Paul ici utilise une illustration bien spécifique, parce que les Grecs de l'époque de Paul, ceux de Corinthe comme d'ailleurs, étaient des gens avec un certain héritage. Ils avaient un esprit de division assez ancré dans leur culture, et les différentes cités grecques qui étaient Sparte, Athènes et Corinthe, je parle de Sparte, rien à voir avec le film où les gars sont bodybuildés avec de l'huile sur le corps, rien à voir avec ça. Si vous avez cette image en tête de Sparte, oubliez complètement, c'est complètement faux. Et ces gens avaient un passé de guerre continuelle, mais il y avait quelque chose qui rassemblait toutes ces cités grecques malgré tout. C'était les jeux pan-helléniques. Lors de ces jeux, qui avaient lieu dans quatre grandes villes, les Grecs honoraient leurs dieux, et ils pratiquaient la compétition sportive intercité, en quelque sorte ce qu'on connaît aujourd'hui par les différentes compétitions qu'on appelle les Jeux Olympiques. L'une de ces villes d'ailleurs était Olympe, c'est ce qui a donné les Jeux Olympiques, mais l'autre était Corinthe. Et les Jeux qui avaient lieu à Corinthe, d'année après année, s'appelaient les Jeux Ismiques. Et c'est exactement à cette illustration que Paul fait appel pour parler aux Corinthiens de ce sujet spirituel central, qui est la nature et la perspective de ma vie et de ma relation avec Christ. Alors, il y a trois notions qui sont importantes dans ce passage. Première notion, le sport. Il est question de course et il est question de combat. Ensuite, il est question de prix. Il est parlé d'une couronne corruptible et d'une couronne incorruptible. Et puis, si vous regardez le verset 27, vous allez vous rendre compte que la prédication est mentionnée au verset 27 courtement, mais elle est mentionnée quand même, et nous allons devoir y aborder. Alors, le point que je voudrais faire ce matin, c'est que ma liberté en Christ est au service de ma vie en Christ. Ma liberté spirituelle doit servir à la sanctification de ma vie personnelle dans ma relation avec Christ. Et je vous propose d'examiner d'un peu plus près cette vie qui est en Christ, cette vie qui est cachée avec Christ en Dieu. Nous allons regarder dans un premier temps la nature de la vie chrétienne, et dans un deuxième temps, nous regarderons le grand challenge qu'est la vie chrétienne. Donc la première chose que je voudrais voir avec vous, c'est la nature de la vie chrétienne. Et tout d'abord, notez que Paul parle de cette vie chrétienne comme étant une course. Il leur dit, ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'une compétition sportive qu'on appelle Ironman. Si vous êtes passionné par les Jeux Olympiques, vous avez certainement déjà vu l'épreuve du marathon. Lorsque les gens courent le marathon, ils courent plus de 42 km, arrivent généralement épuisés. Il n'est pas rare de voir certains coureurs qui franchissent la ligne et qui sont emmenés dans les vestiaires sur des fauteuils roulants. Ça vous donne un aperçu de comment cette course est éprouvante. Mais l'Ironman est réputé comme étant l'une des courses les plus éprouvantes qui soient. Laissez-moi vous donner un aperçu de ce qu'est cette course. Elle commence par 3,8 km de natation. Chers amis, je fais 50 mètres, je suis déjà épuisé. Ensuite, sortie de l'eau. Les concurrents grimpent sur un vélo et c'est parti pour 180 km. Et enfin, après avoir garé le vélo 180 km après, ils courent encore 42,195 km à pied, un marathon, c'est ce qui s'appelle le Ironman. 3,8 km de natation, 180 km de vélo, 42,195 km de course à pied. Chers amis, la vie chrétienne n'est pas un sprint après lequel on reste assis et on regarde les autres depuis les tribunes. Trop souvent, nous pensons que la vie chrétienne est semblable à un match de foot et nous serions les supporters en train de manger des cacahuètes et critiquant les joueurs. Ça n'a rien à voir avec ça. La vie chrétienne est une course éprouvante. Elle sollicite tout notre être. Et quelles sont les qualités pour courir ? De l'endurance, de la persévérance, de la résistance à la douleur, de la résistance à la souffrance, du renoncement à soi-même, du renoncement à son confort, parce qu'il y a tout un monde entre participer à un Ironman et regarder les Jeux Olympiques à la télévision. Ça n'a rien à voir. Vous savez, j'ai un ami qui court. Il aime courir. Il est même pas mauvais du tout à cela. Et un jour, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui te donne envie de courir? Moi, j'ai horreur de courir. C'est quelque chose, je vais vous dire, courir, ça, je trouve ça tellement vain, sans but et inutile. J'ai tellement du mal à comprendre pourquoi cette personne court. Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Il m'a dit, mais j'aime pas ça. Alors je lui ai dit, mais pourquoi tu cours? Il m'a dit, j'y vais pour me discipliner. Ça m'a vraiment frappé, hein. On a tous dans notre vie certains aspects qu'on ne souhaite pas discipliner, qu'on ne souhaite pas assujettir. Mais ce gars, qui n'est pas si mauvais que cela à la course, il pratique quelque chose qu'il n'aime pas. Combien d'entre nous ici préférons utiliser notre liberté chrétienne pour vivre les choses qui nous plaisent, parfois même quand ce sont des plaisirs coupables, qui s'opposent à Dieu, là où la vie chrétienne est une course éprouvante, une course qui sollicite tout notre être et qui nous invite au renoncement à soi-même, jour après jour. La deuxième illustration que Paul donne dans ce passage, c'est l'illustration du combat. Vous voyez, il dit « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence ». Et le terme « pukteuo », le terme grec qui est présent ici seulement dans le Nouveau Testament, on appelle ça un « apax legomena », quand un mot est présent une seule fois dans une lettre. C'est un mot qui est particulier. Et ce mot, il signifie littéralement « boxer ». Et c'est la deuxième grande information que nous recevons sur la vie chrétienne dans ce passage, c'est que la vie chrétienne est un combat et c'est violent. Vous savez, les combats de pugilat du temps des Jeux Olympiques antiques et du temps des Jeux ismiques, c'était pas vraiment les combats de boxe comme on voit aujourd'hui avec les gants, même si c'est violent les combats de boxe que l'on connaît. C'était vraiment du pugilat, limite jusqu'à ce que mort s'en suive. Et pour moi qui me suis pas mal intéressé au sport de combat, non pas en tant que pratiquant, mais en tant que grand critique télévisuel, n'est-ce pas ? J'ai souvent été amené à regarder les débuts d'un sport qu'on a appelé le MMA. Rien à voir avec l'assurance, le MMA c'est Mixed Martial Arts, arts martiaux mixés. C'était en quelque sorte l'officialisation au milieu des années 90 des combats de rue illégaux. Et ils ont officialisé ces combats de rue en créant une structure où les gens pouvaient venir et combattre les uns avec les autres dans des combats qui n'avaient pas de règles. Depuis, ils ont mis des règles. Mais lorsqu'ils ont commencé, c'était absolument horrible. Il n'y avait pas de catégorie de poids. Vous aviez des gros costauds de 200 kilos qui se battaient contre des gens de 50. Je ne vous laisse pas imaginer le résultat. Et vous aviez généralement des combats qui tournaient avec des blessures graves. C'était affreusement horrible, vous voyez. Mais au milieu de ces combats vraiment terribles, un jour, un homme est arrivé, un Brésilien, il s'appelle Royce Gracie. Et ce gars arrivait, il devait peser 80 kilos, il n'était pas tout petit, vous voyez, mais par rapport aux autres, il avait l'air plutôt frêle. Ce Royce Gracie, il arrivait avec un kimono blanc, alors que les autres arrivaient les muscles saillants, torse nu, et il commençait le combat en s'inclinant comme ça. Ça faisait vraiment ridicule par rapport aux autres, hein. Et les autres arrivaient et essayaient de le frapper. Et généralement, ils n'y arrivaient pas. Et dès qu'il avait attrapé leurs mains ou leurs pieds, alors les deux tombaient par terre, on comprenait plus rien au combat, ils leur faisaient une clé de bras ou clé de jambe, ils faisaient un nœud avec leurs membres, et tout d'un coup, l'homme tapait par terre et abandonnait, et Royce Gracie avait gagné. Et il a gagné les trois premières éditions de cette compétition cruelle sans prendre un seul coup, et en donnant un minimum. Un jour, les journalistes sont partis l'interviewer et lui ont dit « Quel est votre secret, monsieur Gracie ? Comment est-ce que vous avez pu gagner ces combats contre des gens qui faisaient parfois deux fois votre poids et gagner toutes ces compétitions et tout l'argent qui allait avec ?» Et il a répondu « La technique. Simplement la technique. » Et la vie chrétienne, elle est comparée par Paul à un pugilat. Donner des coups et en prendre, bien sûr spirituellement, c'est le quotidien d'un chrétien. Mais ce n'est pas comme battre en l'air. Il s'agit pas de frapper tous azimuts, de courir dans tous les sens, ou de considérer que la vie spirituelle c'est un effort d'un coup, et après on s'arrête et on s'assoit. Ça n'a rien à voir avec ça. Il frappe non pas comme battant l'air. Paul n'est pas exempt de technique. Il cherchait à connaître son Sauveur. Il cherchait à découvrir toujours plus. Il passait du temps chaque jour dans la communion avec lui. Il sondait les Écritures. Il les connaissait par cœur. Il les méditait. Il priait. Il ne laissait pas une seule parole de son Dieu tomber à terre, car c'était l'entraînement même dont il avait besoin pour combattre spirituellement ce combat auquel il était appelé. La vie chrétienne, chers amis, ce n'est pas rose. La vie chrétienne, ce n'est pas si paisible que parfois on voudrait bien la présenter. C'est une course, c'est un combat. Et c'est parfois une grande erreur que nous avons de penser que la vie chrétienne est un long fleuve tranquille. Je me rappelle de ce pasteur de Vision France qui un jour a été appelé à donner son témoignage lors d'une grande conférence de Vision France dans l'Est de la France. Et vous savez, les témoignages, généralement, ça commence toujours comme ça. Oui, j'étais loin dans le monde et le Seigneur est venu me chercher, il a transformé ma vie et aujourd'hui tout va bien. Souvent, c'est un petit peu comme ça qu'on peut résumer nos témoignages. Et ce gars a commencé en disant, bah voilà, je menais une vie tranquille, tout était bien rangé, tout était bien carré, et un jour on est venu me prêcher l'Évangile, j'y ai réfléchi, j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur, j'ai commencé à vouloir conformer ma vie à la sienne, et alors, les ennuis ont commencé. Et ma vie a été complètement bouleversée. Et aujourd'hui, j'ai une joie profonde, mais je suis dans l'épreuve. Et je suis dans une épreuve telle que seul lui peut me soutenir. Quel témoignage complètement différent que ceux dont nous avons l'habitude d'entendre. Prenons garde, chers amis, à ce que nous annonçons. Et si vous prêchez l'Évangile à vos proches, à vos amis, à ceux qui sont autour de vous, prenez garde de ne pas prêcher un Jésus rose comme une guimauve, mais prêchez l'Évangile de Christ crucifié, frappé et blessé pour nous, car c'est l'Évangile. Il a souffert à notre place, il a payé le prix. Ils ont donné à notre maître une couronne d'épines et nous nous dormirions dans un lit de rose. Non, chers amis, la vie chrétienne est éprouvante. C'est une course, c'est un combat et nous sommes appelés à le mener contre notre plus grand ennemi, c'est-à-dire nous-mêmes. La deuxième chose que j'aimerais relever maintenant sur ce texte qui est le nôtre ce matin, c'est le challenge, le grand challenge de notre vie chrétienne. Et l'une des grandes choses que dit Paul dans ce passage, il s'agit de courir de manière à remporter le prix. Et lors des Jeux ismiques, ceux qui courent, ils courent dans le stade, et ceux qui combattent, ils combattent dans l'arène, mais ils ont une motivation centrale. Ils ne vont pas là-bas juste pour faire de la figuration. Ils ont un objectif en ligne de mire. Quel est cet objectif ? Donner le meilleur d'eux-mêmes pour remporter, si cela est possible, la victoire. Regardez ce que dit Paul. Courir de manière à remporter le prix, verset 24. Il est important quand même de s'arrêter ici un instant. Paul, il n'est pas en train de demander aux Corinthiens d'utiliser n'importe quel moyen pour gagner. Paul n'est pas en train de faire une comparaison entre la vie chrétienne normale et ce que les cyclistes font dans leur grande majorité sur le Tour de France. Pas de dopage dans la vie chrétienne. Paul n'est pas en train de leur dire « vous pouvez tricher ». Et d'ailleurs, à Timothée, dans un autre livre, il leur dira « l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Votre vie chrétienne a des règles. Vous avez des barres de guidage, vous voyez, qui vous accompagnent au quotidien. On appelle ça la loi morale. Elle est votre soutien chaque jour. Tu connais les commandements, dit Jésus au jeune homme riche. Tu les connais, observe-les, tu vivras. Bien sûr, c'est notre aide pour la vie chrétienne. On n'est pas sauvé par la loi, mais la loi nous donne des indications claires quant à comment marcher avec Christ. Mais ce que Paul dit ici est plutôt courez et combattez en donnant jusqu'à votre dernier souffle et en ayant devant les yeux ce seul et unique objectif qui est celui de remporter la victoire, de remporter le prix. Que votre vie tout entière soit dédiée à cette course. Alors il est question ici de la couronne de la vie chrétienne. Et Paul, il utilise ces deux illustrations, la course et le combat, pour faire comprendre une vérité spirituelle aux Corinthiens. Mais il y a un moment où l'illustration doit céder la place au véritable enseignement, comme c'est le cas de cette histoire de couronne de la vie chrétienne. Et voilà l'argument de Paul. Si la couronne pour laquelle courent les athlètes des Jeux ismiques est corruptible, celle pour laquelle les chrétiens courent est incorruptible. Mais vous vous posez peut-être la question, quelle est cette couronne ? Jacques, chapitre 1, verset 12, nous donne la réponse suivante. Heureux l'homme qui supporte, qui prend sur lui patiemment la tentation, car après avoir été ainsi éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. La couronne pour laquelle nous courons est une couronne de vie, une couronne de vie éternelle. Nous courons et nous combattons, chers amis, dans la perspective d'obtenir la vie éternelle. Alors, comment pouvons-nous courir? Comment pouvons-nous combattre de manière à remporter le prix? Il y a quelques années, plus que quelques années, c'était aux Jeux Olympiques de Munich en 1972, il y avait un athlète de très haut niveau qui était convié pour se présenter à une épreuve de sprint. C'était quelqu'un qui aimait la bonne vie. Il aimait bien manger. Il n'y a aucun mal à ça. C'est bon, la gastronomie. Il aimait bien aussi se détendre avec ses amis. En soi, ce n'est pas un problème. Mais voilà, cet homme se préparait aux Jeux Olympiques. Il y a des choses, quand vous êtes en préparation sportive pour de telles compétitions, que vous ne pouvez pas vous permettre de faire. Notamment, quand à une semaine des Jeux Olympiques, votre meilleur ami vous invite à aller manger avec lui au restaurant, dans un grand restaurant, à volonté. Vous savez, au Texas, où j'habite actuellement, on a un restaurant qui s'appelle Risky's. C'est All You Can Eat Ribs, c'est-à-dire vous pouvez manger toutes les côtes de bœuf que vous voulez, c'est à volonté. Ça coûte 10,95 $. Si vous mangez 10 côtes, ça vous coûte 1 $ la côte. J'ai essayé, après vous avez un peu de mal à marcher quand même, croyez-moi. Mais c'était globalement ce que cet homme proposait à cet athlète de haut niveau. Et l'athlète de haut niveau, il avait bien envie d'aller manger au restaurant. De la bonne pitance pour manger avec mes amis et à volonté. Mais voilà qu'il a pensé à la perspective de la compétition qui arrivait. Et il s'est dit, j'ai bien envie d'y aller. J'ai même plus qu'envie d'y aller. Mais je ne vais pas y aller, parce que si j'y vais, je ne serai pas en train de courir pour remporter la victoire. Oui, il s'agit de se discipliner au renoncement. C'est cette notion de self-control, cette notion d'abstinence qui est mentionnée au verset 25. Regardez ce qu'il dit. « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Nous, on le fait pour une couronne incorruptible. » Connaissez-vous Jonathan Edwards? Il me semble avoir déjà donné cette illustration ici. Jonathan Edwards avait listé toutes les nourritures qui le faisaient dormir et il s'en abstenait pour pouvoir consacrer son temps à l'étude de la parole. Plus de 13 heures par jour. Et il trouvait encore le moyen de s'occuper de sa famille. Jonathan Edwards, se discipliner au renoncement, mais aussi agir avec bon sens et stratégie, définir un plan de bataille, accepter de le mettre en œuvre quotidiennement, comme c'est dit au verset 26. Il le dit, « Moi je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. » J'ai une stratégie de renoncement, j'ai une stratégie de mortification de mon corps. Vous connaissez peut-être George Werver, qui est le fondateur d'Opération Mobilisation. Lorsque les premières missions ont commencé, dans les années 50-60, et ça a poursuivi avec son leadership jusque dans les années 70, début des années 80, chaque mission qu'il dirigeait, chaque campagne, elle commençait à 6h du matin par des exercices sportifs. Franchement, venez à Mission Vacances, c'est plus cool. Avec Kevin. Mais sachez qu'avec George Werver, c'était 6h du matin, flexion, extension, petit saut groupé, etc., etc. Gymnastique matinale, afin de traiter durement son corps et de ne pas le laisser prendre l'avantage sur nous. Je traite durement mon corps, dit Paul, et je le tiens assujetti. Waouh ! Quelle vérité que nous aurions bien envie d'oublier, parfois, nous, les chrétiens occidentaux. Il est temps de conclure maintenant, et j'aimerais poser cette question en conclusion. Quel est le lien entre ma liberté chrétienne, ma sanctification et la proclamation de l'Évangile? Quel est le lien entre le fait que je sois libre, libéré par Christ en tant que chrétien, le fait que je sois appelé à marcher à la ressemblance de Christ, la sanctification, et en même temps le fait que je sois appelé à proclamer Christ? Tout d'abord, j'aimerais vous dire que la liberté n'exclut pas la discipline personnelle. Il y a eu un mouvement qu'on appelle le mouvement de Keswick en Angleterre qui a parfois défendu l'idée d'un certain « let go and let God ». Laisse-toi aller et Dieu va te diriger. Autrement dit, L'une des idées centrales de ce mouvement, c'était que si tu commences à faire quoi que ce soit par ta propre force, pour ta sanctification échouera. Malheureusement, il y a une vérité là-dedans. Dieu produit la sanctification. Mais c'est faux de dire que cela se produit en dehors de nos efforts. Paul est extrêmement clair ici. Nous sommes appelés à renoncer à nous-mêmes. Ça nous coûte, c'est difficile, c'est dur. Et l'illustration que j'aimerais vous donner, c'est celle de garder la ligne. Moi, je reviens du Texas, j'ai pris quelques kilos. J'ai beaucoup de mal à les perdre. Chaque fois que certains d'entre vous veulent garder la ligne, mais vous devez renoncer à des choses, comme par exemple cet éclair au chocolat qui vous attend dans la vitrine de la boulangerie. Mon ancienne chef, quand je travaillais à la Poste française, disait tout le temps que la vie est injuste. Elle disait, moi j'ai des amis, elles peuvent manger 3 ou 4 éclairs au chocolat, elles ne grossissent pas. Moi, rien que de l'avoir regardé, j'ai pris 3 kilos, disait-elle. La réalité, elle est là. Oui, la vie dans ce sens est un petit peu injuste. Il est parfois des concessions, des efforts, se faire violence que nous sommes prêts à faire pour garder la ligne, notamment en cette période estivale. Mais combien d'efforts sommes-nous prêts à faire pour garder la ligne avec Dieu? Très bonne question. Or, chers amis, ma vie chrétienne est en rapport direct avec la proclamation de l'Évangile. Et on a vu ensemble que dans la première partie du chapitre 9, Paul se sert de son exemple personnel pour montrer que la liberté du chrétien est soumise à la proclamation de l'Évangile. Il dit « Je fais tout à cause de l'Évangile ». Il ne fait rien qui pourrait s'opposer à la proclamation de l'Évangile. Son objectif, en terminant le chapitre 9, est toujours le même. Il le dit « De peur qu'avoir prêché aux autres, après avoir prêché aux autres, je sois moi-même rejeté, disqualifié. » C'est-à-dire, de peur qu'avoir annoncé un si grand message que ma vie viendrait maintenant à démontrer que je ne prêche pas ce message par mes propres forces, qu'il n'est pas actif dans ma vie. Oh, les prédicateurs ont une lourde tâche, croyez-moi, priez pour moi quand je vois toutes les carences de ma vie spirituelle et je me retrouve face à des textes comme celui-là, je me dis qu'est-ce que je prêche par ma vie? Qu'est-ce que je prêche par mes œuvres? Est-ce que ma repentance est quotidienne comme c'est attendu d'un enfant de Dieu? Est-ce que je suis prêt à vivre en paix avec mes frères et mes sœurs? Est-ce que je suis prêt à renoncer? Est-ce que je suis prêt à me laisser dépouiller comme Paul appelait les Corinthiens à le faire? Pratiquer ce que nous prêchons, chers amis, c'est pas seulement pour les prédicateurs. Pratiquez ce que nous prêchons pour la gloire de l'Évangile. Et reconnaissez bien que parfois, nous laissons de petites concessions s'installer dans notre vie spirituelle. Nous les laissons grandir en nous, nos petits plaisirs coupables, nos affections que nous aurions honte de mentionner ici dans cette salle. Nous les laissons prendre possession de nous. Et alors, l'Évangile s'en trouve amoindri. Et nos rêves pour Christ, ceux que nous étions en train de voir, pour voir l'Évangile être prêché jusqu'aux extrémités de la terre, nous les reléguons jusqu'au fond du placard. Et notre témoignage est réduit à néant, parce que nous ne parlons plus, tout simplement parce que nous savons que notre vie spirituelle n'est plus en accord avec le message qui est le nôtre. Quel drame quand nous en arrivons là. Et je crois que nous sommes tous concernés à un moment ou à un autre de notre vie. Oh, combien nous avons besoin de vivre cet appel à la repentance quotidienne que non seulement les évangiles nous donnent, mais qui ont été repris par tous les pères de l'Église jusqu'à la Réforme et Martin Luther qui a commencé ses 95 thèses en disant « Repentez-vous, en disant repentez-vous, notre Maître et Seigneur Jésus-Christ a voulu que la vie tout entière des chrétiens soit une repentance. » Mais j'aimerais poser une dernière question maintenant, et je crois qu'elle est importante et essentielle pour nous. Parce que parfois nous sommes perdus dans nos pensées et notre petitesse et notre insignifiance en tant qu'êtres humains. Et nous avons du mal à comprendre la manière dont Dieu fonctionne. Et la grande question c'est, est-ce que traiter durement mon corps, est-ce que renoncer à moi-même, est-ce que s'abstenir de toutes ces choses sont compatibles avec la grâce de Dieu qui nous sanctifie au quotidien? Oui, bien sûr. Aucune gloire n'est à tirer de nos propres forces. Pour l'Évangile, notre salut, notre sanctification, c'est l'œuvre de Christ. Clairement, Christ nous sanctifie tout entier. C'est lui qui nous donne la force. Sans lui, on ne peut rien faire. C'est très clair. Regardez ce que dit Ésaïe 26, 12. « Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. » Alors, comment est-ce que ces notions peuvent s'accorder entre elles? Comment est-ce que Dieu, qui fait tout par sa grâce, peut s'accorder avec la nécessité pour moi de faire des efforts et de renoncer et de me faire violence? Eh bien, plutôt que vous faire un grand discours sur le sujet, j'aimerais vous montrer une petite vidéo qui me servira de conclusion, que Michael va maintenant lancer.